Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Heureux d'être ensemble ce soir encore et de partager la parole de Dieu autour d'un thème qui n'est pas toujours facile à traiter. C'est un thème, je dirais, un petit peu délicat. Les relations entre parents et beaux-parents. Et j'aimerais commencer par dire déjà, les belles-mères, je vous bénis. Vous êtes bénis. Parce que moi, je veux sortir vivant de ce lieu. D'après un sondage, les conflits au sujet des beaux-parents viennent en deuxième position. Vous voyez un petit peu le sujet qu'on traite ce soir, comment il est délicat hein, dans les familles. C'est dans les causes de conflits conjugaux, la deuxième cause, c'est la relation entre parents et beaux-parents. Donc on voit tout de suite que c'est un sujet conflictuel, c'est un sujet un peu compliqué. Et c'est vrai que quand on marie quelqu'un, on n'a pas toujours conscience qu'on marie plus que lui. On marie aussi la famille quelque part. Hein. Parce que autant on choisit notre conjoint, mais on ne choisit pas la famille. Et donc, ça va demander des ajustements au minimum. Ça va demander beaucoup de patience, de miséricorde, de compassion. En fait, c'est un beau sujet pour travailler le fruit de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi ?
Amen.
Et on voit que d'une génération à l'autre, évidemment, on le sait tous, hein, on ne pense pas pareil, on évite des vieux qui savent plus, on n'est plus dans le coup. Hein, dès que les enfants commencent à arriver à l'âge adulte, ils nous regardent, mais on voit bien dans leurs yeux, c'est plus comme quand ils étaient petits. Hein. Ils disent « Papa, t'es gentil, ouais, ok, pas de problème. » Mais on est un peu dépassé. Hein. Et donc, il faut accepter tout ça. Et pour illustrer juste un petit peu les changements de génération, on va voir que ça va très vite. Et j'ai été chercher dans une histoire vraie, hein. Et vous allez voir un petit peu comment les choses ont bien changé. Il y a une cinquantaine d'années en arrière, il s'agissait principalement de remplir des rôles bien définis. Les rôles étaient bien définis auparavant. De nos jours, nous pensons davantage à la qualité de la relation conjugale. Pour illustrer ces changements, voici un extrait d'un manuel utilisé en 1950 dans les écoles secondaires en Nouvelle-Zélande. Il y avait à cette époque-là des cours d'éducation domestique. Ça n'existe plus, peut-être qu'il faudrait que ça revienne. Pour préparer les jeunes filles à la tenue d'un foyer. Bon, c'est pas moi, hein, j'ai repris simplement. Hein. Vous fâchez pas. Hein. Veillez à ce que le repas soit prêt. Pensez-y à l'avance, même le jour avant, afin d'avoir un bon repas prêt à temps. La plupart des hommes ont faim quand ils rentrent à la maison. La perspective d'un bon repas fait partie de l'accueil chaleureux dont il a besoin. Alors, mesdames, soyez prêtes. Prenez le temps de vous reposer un petit quart d'heure, histoire d'être bien fraîche et de disposer quand il va arriver. Renouvelez votre maquillage et soyez gaies, soyez joyeuses. Il était avec des gens épuisés par le travail et après une journée fatigante, il a besoin que vous lui remontiez le moral. Préparez les enfants. Prenez quelques minutes pour laver les mains et les visages des enfants, s'ils sont petits, les peigner, si c'est nécessaire, changer leurs habits. Éliminez le bruit le plus possible. Éteignez les appareils bruyants comme le lave-linge, l'aspirateur. Essayez d'obtenir le silence chez les enfants. Et voici le top du top. Ça, peut-être, il faudrait que ça soit remis au goût du jour. Hein. Mettez-le à l'aise, qu'il s'allonge sur un fauteuil confortable ou sur le lit dans la chambre. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. Arrangez son petit coussin. Offrez de lui retirer ses chaussures. Parlez-lui d'une voix douce et reposante. Amen. Il y a du bon des fois dans le passé. Hein. On va se faire traiter de macho. Ce qu'il faut noter de tout ça, c'est que les beaux-parents influencent la marche d'un couple. Qu'on le veuille ou non, il y a une influence. D'après l'analyse faite dans 450 familles d'origine, les chercheurs affirment que l'impact de mauvaises relations avec les beaux-parents peut faire du tort à un couple, même après 20 ans de mariage. Ça dure, hein ? La rancune est tenace. L'indépendance du couple, c'est un préalable à sa réussite. Et c'est ce qu'on retrouve dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme ou la femme quittera son père et sa mère pour vivre avec son mari ou sa femme. Donc ce n'est pas quitter géographiquement, forcément, hein, mais c'est quitter dans le sens qu'on devient indépendant. C'est désormais dans ce nouveau foyer que vont se prendre les décisions. C'est envers votre conjoint, là on a un premier principe, regardez bien, c'est envers votre conjoint que vous montrerez en priorité votre attachement et votre fidélité. Vous voyez que dès qu'on se marie, il y a un changement de situation. La priorité, ce ne sont plus mes parents, même si je suis appelé à m'en occuper, mais ce n'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est mon époux, mon épouse, à qui je vais montrer mon attachement et ma fidélité. Il est nécessaire de couper le cordon ombilical. Ceci ne veut pas dire qu'on se coupe de ses parents ou on ne les respecte plus. Mais il faut que nous entretenions des relations d'adultes avec nos parents. Pour le jeune couple qui s'est marié, évidemment, le statut change. On n'est plus cette petite fille ou ce petit garçon qui obéissait à papa et à maman. Maintenant, on est appelé à avoir des rapports d'adultes. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein, il y a un processus, il y a un chemin. Mais voilà. On change de statut. Nos parents sont appelés à nous considérer comme un couple autonome, à part entière, qui prennent leurs décisions tous les deux, même si les conseils peuvent être d'une grande utilité, les conseils des grands, des parents et des beaux-parents. Eux et nous, nous nous donnons mutuellement de l'affection et de l'aide. Même s'il est clair que chaque couple entretient avec sa famille d'origine des relations qui lui sont propres. Le but recherché, c'est de créer de saines relations familiales. Sans perdre de vue, c'est que nous devons mettre en premier la satisfaction des besoins de notre conjoint. Mais le principe, il est clair, déjà parce que c'est notre appel en tant que chrétien, hein, mais on est appelé à avoir des relations saines dans les familles. Même si ce n'est pas toujours la réalité, beaucoup de familles se déchirent. Mais en tout cas, gardons déjà dans ce premier principe que nous, notre appel, ben, c'est d'être des artisans de paix. C'est que là où on va, on apporte la paix. D'accord ? C'est notre marque de chrétien. Donc on est appelé à avoir des relations saines dans la famille. Il n'en reste pas moins que nous allons devoir faire des efforts pour entretenir des bonnes relations avec nos parents, nos beaux-parents et le reste de la famille. Nous avons tous expérimenté que lors de repas familiaux, de vacances en famille ou de rencontres pour les fêtes, comme pour les relations dans le couple, le risque de relations tendues, j'étais gentil, hein, juste des relations tendues, pouvant aller jusqu'au conflit, est toujours présent. Il y a toujours un risque, quand on se réunit en famille, qu'à un moment ou à un autre, ça part en vrille. Donc, on est toujours sur ses gardes. Attention à ce qu'on dit à l'un, attention à ce qu'on dit à l'autre, attention à comment tu réponds. C'est toujours un petit peu compliqué. Nous allons regarder à 5 grands principes pour créer, ou si ça n'existe pas, recréer des relations familiales saines. D'abord, prendre conscience que nous avons notre part à faire pour résoudre les conflits et apaiser les tensions. Deuxième grand principe, tenir compte des besoins de nos parents et de nos beaux-parents. Troisième principe, cesser de dépendre affectivement de nos parents. On va y revenir, hein, on va détailler tout ça. Prendre vous-même vos décisions en couple, c'est le quatrième. Et le cinquième, se soutenir mutuellement dans le couple. Détaillons ces 5 grands principes. Le premier, c'est s'efforcer de résoudre les conflits. Toutes les relations entraînent des conflits, plus ou moins sérieux. Et dans les relations familiales, comme dans le couple, les blessures non guéries et les colères refoulées vont former des bouchons dans le tuyau des relations. Ils ont pu se produire avant notre mariage ou pendant, quel que soit le cas, le processus est le suivant pour toutes les relations. C'est-à-dire que c'est un principe général pour faire la paix avec quelqu'un. D'abord, reconnaître les blessures, les siennes et celles que nous avons causées. C'est-à-dire c'est important de ne pas faire comme si on n'avait pas été blessé. C'est important de dire, ben là, tu vois, j'ai été blessé. Et que l'autre aussi reconnaisse les blessures qu'il a subies. Ensuite, on présente ses excuses, on pardonne et on repart ensemble. Voilà le principe général des relations, dans un monde idéal. Donc c'est l'effort que nous avons à faire. Reconnaître les blessures, les dire, pas les garder refoulées au fond de nous, parce que ça va s'accumuler. Présenter ses excuses pour la part que nous, on a à se reprocher, pardonner et repartir ensemble. Cerner le problème, reconnaître où il se situe. Parfois, c'est un gros problème qui a causé des blessures et une division dans la famille. Parfois, c'est un cumul de petites choses ou c'est un comportement qui se reproduit depuis de nombreuses années. En discuter franchement avec notre conjoint nous aidera à mettre le doigt sur la cause d'un conflit non réglé. Parler avec notre conjoint de ce qui se passe dans la famille. Ensuite, présenter ses excuses. Il est rare, c'est comme dans le couple, il est rare que les blessures et les colères non résolues proviennent tous d'un seul côté. Nous avons déjà vu la puissance active qui résulte de l'initiative de nous excuser pour la part que nous avons eue. C'est un principe biblique. Néanmoins, il faut agir avec sagesse. Et se demander, pourquoi ? Parce que là, on est dans une relation familiale. C'est une relation où on est appelé à se revoir. On ne sait pas quelqu'un qui est de passage. Là, on est appelé à entretenir ces relations-là. Et donc, il y a des gens, on va le voir, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à discuter. Et ce n'est pas dans leur tempérament, et ils ne veulent pas confronter, ils ne veulent pas parler. Et donc, il faut savoir si, en allant voir la personne, est-ce que ça va faire plus de bien ou plus de mal. Est-ce que la personne est en capacité de comprendre la responsabilité de chacun ? Est-ce qu'il ne risque pas de se sentir accusé ? Bref, posez-vous la question. De remettre ça sur la table, est-ce que ça va faire plus de mal ou plus de bien ? C'est important, parce que quelquefois, on s'est rendu compte que mais la personne n'était pas prête à entendre ce qu'on voulait dire. Et pourtant, nous, on voulait la confronter, on voulait lui dire. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Ben en fait, ça n'a pas arrangé l'affaire, ça a plutôt empiré. Et donc, ça complique la vie de la famille. Il nous faut comprendre que nous avons souvent à composer avec des personnes encore blessées par la vie et qui ne sont pas forcément dans cette démarche spirituelle à laquelle nous pousse l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons user de sagesse, de miséricorde et de compassion. Mais c'est la famille. Et pour la famille, on fait des efforts. Amen. C'est pas toujours facile, mais il faut trouver des compromis avec la famille. Ensuite, pardonner ce qu'il y a à pardonner. Cependant, si nous ne pouvons pas exiger des autres qu'ils agissent comme on le voudrait, parce qu'on vient de le voir, quelquefois c'est pas possible, rien ne nous empêche de travailler sur nous-mêmes. On n'est pas obligé d'attendre que l'autre nous demande pardon. Nous pouvons travailler sur nous, et pour cela, nous ne dépendons pas des autres pour décider de pardonner. Amen. Il ne faut pas se servir de cela comme excuse. Nous, on a notre part à faire. Se demander si nous gardons du non-pardon, du ressentiment, etc. Et si c'est le cas, il se peut que nous devions choisir de pardonner, même si eux ne reconnaissent pas leur tort ou ne s'excusent pas. Ou même sans en avoir discuté avec eux. Donc, on met en évidence que nous, notre part à faire, c'est de garder le tuyau débouché. Et pour cela, il faut rentrer dans le pardon. Maintenir le tuyau des relations débouchées en ôtant toute blessure ou colère est important. Non seulement pour nos propres relations avec eux, mais également pour la relation de nos enfants avec eux. Il y a les petits-enfants qui sont en jeu. Donc notre comportement va aussi influencer la relation que les petits-enfants vont développer avec les beaux-parents et les grands-parents. La relation petit-enfant grands-parents est tellement spéciale que nous voulons qu'elle soit aussi belle que possible. Ensuite, l'idéal, c'est de repartir ensemble. Cette attitude de pardon permettra de repartir ensemble dans une relation plus saine. Amen. À noter une chose importante qu'on va voir à deux reprises ce soir. On doit parler des abus, c'est une tolérance zéro. D'accord? Pourquoi ça? Nous pouvons nous retrouver en présence de relations toxiques, de personnes dysfonctionnelles qui ont pu par le passé exercer des abus physiques ou verbales. Donc, je veux mettre ça en évidence parce que le principe, il est bon, mais à condition qu'on ne soit pas abusé, qu'on ne soit pas dans l'abus. Oui. Parce que sinon, ça devient compliqué. C'est-à-dire que, je m'explique, je vous donne des cas que moi j'ai connus. Hein. Par exemple, la belle maman n'a jamais accepté la belle fille. Et en fait, elle l'a rabaissée tout le temps. Elle l'humiliait. D'accord ? Donc là, on est dans un abus verbal. Et là, on va le voir tout à l'heure, il y a d'autres dispositions à prendre. Mais il y a une chose que l'on ne doit pas accepter, c'est les abus. Les abus, il faut en parler avec le conjoint et on va voir tout à l'heure comment réagir par rapport aux abus. Et je voulais mettre ça en évidence parce que quelquefois, on ne sait pas trop comment réagir quand on a une personne en face de nous qui se permet de dépasser les limites. Il est fondamental d'en parler à notre conjoint et deux solutions s'offriront à nous. Soit confronter la personne ou soit espacer les relations. Soit avec notre conjoint, on décide de confronter la personne. Et le mot confronter, c'est pas forcément rentrer en guerre. Beaucoup de gens connaissent mal ce mot. Confronter, c'est simplement le courage d'aller voir la personne et de lui dire dans l'amour ce qui ne va pas. C'est ça, confronter. Et on a besoin de confronter dans la vie. Confronter, c'est d'aller voir cette personne-là et lui dire, voilà, quand tu agis comme ça, quand tu me parles comme ça, eh bien, tu me blesses. C'est mon droit, je ne l'accuse pas, je dis je suis blessé. Je suis blessé. Et donc, à partir de là, soit la personne ne comprend pas et qu'elle dit que c'est moi qui est malade, ça peut arriver, l'inversion de la faute. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra prendre peut-être des décisions un peu compliquées, mais peut-être espacer les relations pour ne pas à chaque fois envenimer la blessure. Parce que la blessure n'a pas le temps de cicatriser, que je reprends encore une blessure, et ça c'est de l'abus. Et donc là-dessus, il faut se positionner. Alors heureusement que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça existe. Deuxième principe, on doit prendre en considération leurs propres besoins. Comme nous l'avons déjà vu, quand nous nous intéressons aux besoins de l'autre, la relation s'améliore. C'est important que dans ce monde, comme on a dit sur les autres enseignements, un monde où le temps est rare, où le temps est compliqué d'avoir du temps, c'est important de prendre soin de nos parents et donc des beaux-parents. C'est important de mettre ça comme une priorité aussi. Besoin de compagnie, besoin de conversation, de contact, surtout s'ils sont seuls, besoin d'encouragement, besoin de sécurité, besoin d'aide ou de conseils pratiques. Troisième principe, cesser de dépendre affectivement de nos parents. Chez certains couples, la question n'a jamais été abordée. Il faut accepter l'indépendance et le changement d'appartenance. Là encore, si c'est un jeune couple, donc ça peut prendre du temps, mais il faut avoir à l'esprit que maintenant, ma priorité, c'est mon conjoint. D'accord ? Donc, la relation, elle va changer. Et souvent, quand ce n'est pas pris en compte, et quand on n'aborde pas le sujet, on peut se retrouver, alors les cas sont multiples, hein, je prends un cas précis, on peut se retrouver avec quelqu'un qui a une relation fusionnelle. Par exemple, une fille avec sa maman. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Et ils avaient trouvé leur équilibre. Mais là, à partir du moment où cette fille-là se marie, elle ne peut plus avoir le même type de relation. Parce que sinon, ça va rentrer en conflit. Vous voyez ? Et le mari, à un moment, ne va plus supporter cette relation fusionnelle avec la maman. Donc c'est pas facile, hein, mais c'est important de réaliser que je ne dépends plus du côté affectif, même si je garde des relations affectives, évidemment. Hein. Mais en fait, là, on va le voir, dans l'intimité, dans ce que je rapporte, tout ça, c'est fini, c'est dans le couple. On va le voir un peu plus loin. Ça, si on n'agit pas comme ça, vous savez ce qui va se passer? C'est que petit à petit, eh ben, ce qui se crée dans le couple et qui relève de l'intimité, ben, va être partagé à chaque fois avec la maman. Et ça, c'est comme dirait une émission, ça va se savoir. Et ça, c'est pas bon. On va voir ce soir que ce qui est dans le couple, ça reste dans le couple. Ok? Avons-nous réellement quitté émotionnellement la maison familiale? Si la réponse est non, ce pourrait être la cause de ressentiment et de tension dans notre couple. Beaucoup de couples se déchirent à cause de la relation qui existe avec les parents ou les beaux-parents. C'est un sujet de tension. Donc là-dessus, il faut être clair. Hein, tu quitteras ton père et ta mère et tu créeras quelque chose de nouveau. Il est nécessaire de cesser de tout rapporter à nos parents comme on le faisait quand nous étions encore ados ou jeunes adultes. Bien sûr, je ne parle pas de garder pour soi, et là c'est la deuxième aspect de l'abus. Évidemment, s'il y a de l'abus dans le couple, hein, évidemment, il faut que ça soit mis à jour. Il est hors de question de supporter des situations abusives. L'abus sous toutes ses formes, comme nous l'avons vu, c'est tolérance zéro. Et dans ce cas, il est impératif, indispensable même, d'en parler et surtout de ne pas attendre. La situation d'abus dans le couple, c'est zéro. Tolérance zéro. D'accord ? Que ça soit verbal, que ça soit psychologique, que ça soit physique, la tolérance c'est zéro. Si quelqu'un est amené à subir un abus quelconque, il y a nécessité pour cette personne d'en parler à quelqu'un de confiance. Et la honte, parce que souvent c'est ça qui va bloquer la personne, et que la personne va rester à ne rien dire et à subir des choses qu'on n'est même pas au courant de ce qui se passe dans le foyer. Et c'est la honte qui va être le piège pour la personne de ne pas parler. La honte n'a pas sa place dans les considérations qui vont vous conduire à en parler ou à garder le silence. Les choses doivent toujours être amenées à la lumière. Il faut parler. Amen. D'un autre côté, il arrive que cela soit du côté des parents ou des beaux-parents qu'il y a un souci. Ceux-ci peuvent vouloir garder une emprise affective sur leurs parents. Ce n'est pas facile d'aborder un problème de ce genre avec un parent et de fixer des limites. Prenons l'exemple du téléphone, un classique. Téléphone ou une présence excessive. Mais c'est vital pour le couple et c'est ça aussi quitter son père et sa mère. J'ai un cas comme ça qui me vient à l'esprit. Donc là, c'est le mari qui avait des habitudes avec sa maman et que tous les soirs, il venait voir sa maman. C'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord ? Mais sauf que le problème, c'est que ça pouvait durer une heure et demie, deux heures. Et pendant ce temps-là, la femme était seule à la maison pour s'occuper des enfants et préparer à manger. Comprenez bien que ça ne peut pas durer. Ça arriverait une fois de temps en temps, oui. Mais si c'est tous les soirs qu'il passe voir sa maman et qu'il passe une heure et demie, deux heures, ben on comprend qu'il y a un problème. Quatrième principe, prendre vous-même vos décisions en couple. Les parents ont souvent de bons conseils à donner dans bien des domaines. Il est bon de tirer parti de leurs expériences et de les écouter. Certains peuvent bénéficier des conseils de leurs parents, depuis la gestion des finances jusqu'à l'éducation des parents. Cependant, nous avons intérêt à respecter la règle d'or suivante pour la bonne santé du couple. Ne jamais prendre une décision avec l'un de nos parents si nous ne l'avons pas prise d'un commun accord dans notre couple auparavant. Très important. Toutes les décisions sont prises dans le couple. Et après, on en discute avec les parents, les beaux-parents. D'accord ? Mais aucune décision ne doit être prise en dehors du couple. Ne jamais prendre de dispositions financières avec la famille sans que votre conjoint en soit pleinement informé et qu'il ait la possibilité de participer à la prise de décision. Parfois, la pression exercée par les parents est évidente. Parfois, elle est plus subtile et utilise la manipulation. Il arrive que la personne ne soit pas consciente de ce qu'elle fait, surtout si elle est seule. Par exemple, si c'est des parents divorcés, ils peuvent être en train de régler leur compte. Nos parents ne doivent pas nous pousser à prendre une décision avec eux tant que nous n'en avons pas d'abord discuté avec notre conjoint. En définitive, c'est à nous deux, dans le couple, en tant que couple, que revient la prise de décision. Et si un des parents nous presse à donner une réponse immédiatement, alors que nous n'avons pas pris le temps d'en discuter avec notre conjoint, alors il faut résister à la tentation de donner une réponse immédiatement. Il faudra mieux répondre dans ce cas-là. Je vais en discuter avec mon chéri et on te dira notre réponse. C'est beaucoup plus sage. Mais ne pas succomber à la tentation de répondre tout de suite parce qu'il y a une pression du parent. Chaque conjoint se sent ainsi respecté et considéré et le couple conserve ainsi sa propre autonomie. Cinquième principe, nous devons nous soutenir mutuellement dans le couple. Certains sont tiraillés entre eux, leur attachement à leurs parents et leur engagement envers le conjoint. Surtout quand il y a des repas, quand il y a on est ensemble, et il va y avoir des points de discussion où là, si on est attaché à ses parents et qu'on a toujours obéi comme il faut à ses parents, et que là, on est plus d'accord avec son conjoint, eh bien, il peut y avoir un problème parce que j'ose pas dire devant mes parents que je ne suis pas d'accord avec eux. Donc là encore, on doit toujours se soutenir mutuellement dans le couple. Il se peut que lorsque nous sommes chez nos parents, nous changeons de comportement et nous soyons tentés de soutenir le point de vue de nos parents en opposition à celui de notre conjoint. Il faut certes reconnaître que cela peut paraître particulièrement difficile, surtout dans le cas d'un parent à fort tempérament ou qui a tendance à vouloir contrôler son environnement. Compliqué des fois de dire à sa maman ou à son papa, s'ils ont l'habitude de ils ont toujours géré comme ça et ils ont toujours contrôlé, et là de dire, bah, tu vois maman, là on ne va pas faire comme ça, on a décidé de faire autrement. Voici un témoignage, on va partir d'un petit exemple tout bête, mais qui peut être attribué à plein de choses. Regardez un petit peu. Un couple se servait d'une tétine pour leur premier enfant. C'était le seul moyen de calmer le bébé le soir. Sinon, personne n'arrivait à dormir à cause des cris de l'enfant. Le mari, lui, devait partir en déplacement pour son travail pendant une semaine et son épouse irait chez ses parents à lui. Mais la panique la saisissait à la pensée de se trouver face à sa belle-mère, femme dotée d'une forte personnalité et qui détestait les tétines. Terrifiée, la jeune fille éclata soudain en pleurs devant son mari et lui ouvrit son cœur. Sur le champ, regardez là comment le mari a bien réagi. Sur le champ, il téléphona à sa mère et après quelques banalités, il aborda le sujet de la tétine. Aucun de mes enfants n'a eu une tétine, s'écria-t-elle furibonde. Ça l'a mis en colère. De quoi ? Vous allez donner une tétine à votre enfant ? Et aucun de mes petits-enfants n'en aura une. Vous voyez là, on a affaire à quelqu'un qui dépasse les limites. On a affaire à quelqu'un qui aime contrôler son environnement et là, qui prend le dessus et qui décide pour les parents. Non, 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 non. Mon petit-enfant là, il n'aura pas de tétine. Waouh, c'est chaud. La discussion fut très vive avec son fils. Jusqu'à ce que le mari y mette fin en déclarant « Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. » « Je ne veux pas en reparler, au revoir. » Et il raccrocha. Oh, on est en tension. Et là, il dit ceci. Il se tourne vers son épouse qui tremblait de peur, et là, il lui dit, « Je pense que nous avons gagné. » Elle n'en était pas sûre, mais je sentais, dit-elle, que nous avions pris la décision ensemble et qu'il avait pris mon parti. C'était ce qui comptait le plus pour moi. Cela étant, je ne me souciais plus de ce que dirait ma belle-mère. voyez, il y a eu une solidarité entre dans le couple, entre l'homme et la femme. Et vous allez voir la suite, quand il y a solidarité, on ne peut rien faire. En fait, pendant toute la semaine, celle-ci, donc la belle-mère, ne mentionna pas la tétine et n'en a jamais reparlé depuis. Incroyable. Elle était dysfonctionnelle dans sa façon de présenter les choses et que c'est elle qui décidait. Ça a dû la travailler. Quand elle a vu la solidarité qu'il y avait dans le couple, eh ben, elle a baissé pavillon. Elle n'a rien dit. Le problème de la tétine était insignifiant en lui-même, mais il aurait pu avoir de graves conséquences sur le couple. Se soutenir mutuellement donne le sentiment d'une profonde intimité. Je crois que c'est un principe. C'est un principe, ce qui se décide dans le couple, c'est les deux qui décident. Et après, on présente ça aux parents ou aux beaux-parents. Quand un époux et une épouse se mettent d'accord sur la conduite à tenir et restent fermement solidaires dans sa mise en pratique, toutes les tentatives de manipulation sont vouées à l'échec. Bien sûr, on avait ici une belle-mère manipulatrice. Nous, heureusement, à la possession, ça n'existe pas. Mais j'en parle pour si un jour vous rencontrez quelqu'un qui pourrait arriver. Nous, on est à l'abri de ça. Cependant, la moindre fissure dans l'unité du couple permet à la belle famille de créer un écart entre les époux. L'influence exercée par notre famille sur notre personnalité. Donc, forcément, on a vécu 20 ans, 25 ans avec notre famille, il en ressort un certain façonnage. Hein, on utilise aussi le mot formaté. Hein, on est formaté par la famille d'origine. Donc forcément, ça a un impact dans la conduite de notre couple. La façon dont nous avons été élevés nous a fortement marqués. Mais pour une large part, on n'en est pas conscient quand nous nous marions. Dans ces conditions, on peut relever qu'il y a du positif, il y a du neutre, mais il y a aussi du négatif. Et les trois catégories ont un impact sur la vie du couple. Donc il faut le prendre en considération, parce que si on ne le prend pas en considération, on va partir des fois dans des disputes, hein, et on n'a pas réalisé que l'origine de notre dispute vient de notre culture, vient de notre façon d'éduquer les enfants, vient de notre façon de voir les choses. Et des fois on entend des disputes comme ça, du style « Ah ben non, mais chez nous on ne fait pas comme ça. » Et l'autre dit « Ah ben non, mais chez nous on fait comme ça. » Vous voyez ? Et donc là, on est sur un positionnement où, mais non, c'est pas bon. La parole de Dieu dit, tu quittes et tu vas créer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas faire comme on faisait à la maison, c'est pas faire comme tu faisais à la maison, c'est trouver ensemble quelle est la bonne solution. Pour le positif, ça va. Il est important de reconnaître les bons aspects dans votre milieu familial. Même avec un passé douloureux, même si ça s'est pas toujours bien passé dans votre famille, on trouve généralement quelque chose de bon. On retire des bonnes choses de notre éducation. Par exemple, pour mon cas, ben c'est simple, il n'y avait pas l'affection dans le foyer, parce que ben, mes parents ne connaissaient pas ce que c'était que d'éprouver de l'amour l'un pour l'autre, de le montrer, donc il n'y avait pas d'affection. Par contre, ils avaient des valeurs travail. Travail, respect, ils avaient des valeurs que moi, le travail, ça a été quelque chose d'évident pour moi, parce que j'ai toujours vu mes parents à la tâche. Même peut-être trop. Et je ne pensais pas qu'on pouvait trop travailler. C'est après que j'ai découvert ça. Ça m'a juste coûté un divorce. Bon, moi, ma première histoire, si vous voulez, ben, c'est que j'étais tout le temps au boulot. Mais ça venait de mes parents. Et je n'avais pas fait la relation. Donc, vous voyez, on peut recevoir des bonnes choses, mais attention à ce que ces choses-là ne se transforment pas en négatif. Par exemple, il se peut qu'on ne se souvienne pas d'avoir reçu des marques d'amour ou d'encouragement de la part de nos parents, mais ils nous auront transmis des valeurs, comme le sens du devoir, la notion de sacrifice pour le bien de la famille, la notion du travail. Il nous faut être reconnaissants pour ce qui était bon dans notre éducation et dans celle de notre conjoint. Donc on peut retirer des bonnes choses de notre éducation et les mettre ensemble dans ce qui va devenir notre foyer. Le neutre. Certains de nos désaccords proviennent des façons de faire différentes selon les familles. Elles ne sont ni meilleures, ni pires que d'autres, mais nous sommes convaincus que la nôtre est la meilleure. Donc là encore, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience pour dire non, mais c'est pas grave, chérie. Moi, chez nous, on faisait comme ça. Ben, chez toi, c'est comme ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'on décide? Voilà, c'est de trouver une solution sans tout de suite vouloir défendre ce qu'on était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est nouveau. Vous voyez? Et pour des gens de. Surtout qu'on est à La Réunion, vous voyez, il y a une mixité à La Réunion. Donc, c'est évident que vous prenez une femme créole et puis vous prenez un oreille. Bon, ben, c'est sûr qu'il va falloir se mettre d'accord. Hein, parce qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même façon de voir les choses. Ben non, il faut l'habituer au fromage. C'est généralement un problème d'habitude, de tradition et de coutumes différentes. Un autre sujet de désaccord sera sur qui fait quoi. Là encore, on peut voir qu'il y a une origine dans nos familles. Qui fait quoi? Si on n'en a pas parlé avant le mariage, s'il n'y a pas eu de préparation au mariage, eh bien, on va se retrouver rapidement ensemble et on n'a même pas pensé qui fait quoi. C'est une prise de conscience qu'on doit faire. Moi, je n'avais jamais réalisé, par exemple, que ben, j'étais complètement dans le modèle patriarcal de la maison. Oui. J'étais un gros macho. Ouais, c'est vrai. Et en fait, dans ma famille, eh ben, y avait ma mère et deux sœurs. Il y avait moi et mon père. Et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'était une bonne chose, je ne sais pas, vous me le direz. Mais chez nous, les hommes ne se levaient pas à table. Oui. Ils étaient servis. Peut-être qu'on était élevé au rang de grand dignitaire, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que je ne connaissais pas dans la famille. Peut-être qu'on descendait de roi aussi, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Mais en tout cas, tranquille. Mais on ne se pose même pas la question. C'est incroyable. Aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, on passerait pour des gros machos de 1950. Mais à l'époque, je me rappelle que je ne me suis jamais posé la question. Vous savez ce que ça a eu comme conséquence? Quand je me suis retrouvé dans mon premier mariage, moi je me souviens très bien, le premier repas, qu'est-ce que j'ai fait d'après-midi? Mais je suis resté à table. Et puis j'attendais le petit café. Ben oui. Et puis le petit café, il ne venait pas. Et puis j'ai appris qu'il fallait faire la vaisselle. Mais ça, c'était nouveau pour moi. Mais ma première femme, elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne connaissait pas. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi à la fin du repas, je suis resté assis. Et que j'ai dit, mais il y a un petit café qui arrive. Et elle n'avait pas du tout cette éducation-là. Et elle m'a dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Le café, il est là. Tu te lèves et tu te sers. Il n'y a plus de moment là pour faire les tartines. Il n'y a plus de moment pour servir le café. Vous voyez, c'est des choses qu'on découvre. Ça peut être brutal. Il vaut mieux se préparer. Plus nous parlons et cherchons des solutions ensemble par rapport à nos attentes différentes, moins elles seront source de conflits et d'irritation. Il faut parler et se mettre d'accord sur les bonnes attitudes à adopter pour notre couple, sur qui fait quoi. Qui fait quoi? Qui fait les courses? Qui fait à manger? Qui fait le ménage? Des choses que, hein, quand on est amoureux, mais alors ça c'est secondaire, ça, c'est les parents qui s'occupent de ça. Nous on est jeunes, on est amoureux. Parler de ménage, franchement. Mais la réalité nous rattrape très très vite. Hein. Par exemple, est-ce que vous avez parlé d'un tempérament? Un est méticuleux, pour ne pas dire maniaque, et l'autre est un peu moins méticuleux, pour ne pas dire bordélique. Ouais. Et tu ne compenses pas. Et ouais, si. Parce que c'est violent. On est chacun chez soi, on se marie, puis on se retrouve sous le même toit. Oui. Imaginez la femme méticuleuse, bien rangée chez elle, tout impeccable. Bon, et ils n'ont pas parlé de ça. Le mec, il arrive chez lui, les chaussettes, le truc, tac, tac. La femme va faire une crise cardiaque. La femme va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il dit, mais c'est quoi le problème? Parce que lui, il vivait célibataire. Donc il arrivait chez lui, toc, il dépendait, toc, toc. Impeccable, tout va bien. Et donc, ça peut être sujet à conflit. Maintenant, plus grave, le négatif. Certains éléments hérités de notre milieu familial vont avoir un impact négatif sur notre couple. Ce sera probablement le cas si nous n'avons pas vu un bon exemple de couple chez nos parents. Par exemple, s'il n'y a pas eu de communication entre eux, on ne les a jamais vus communiquer entre eux. S'il n'y a pas eu de manifestation de tendresse entre eux, ils ne s'embrassaient pas, ils ne se prenaient pas la main. Ou qu'ils ne manifestaient jamais leurs émotions. Ils ne parlaient jamais de ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur. Oui. Ils ne savaient pas résoudre leur conflit de façon correcte. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte de l'influence du comportement de nos parents, on va reproduire tout ça dans notre couple. Ouais. Manque d'affection, il faut qu'il apprenne le langage de l'amour, mais il faut qu'on en parle. Parce que sinon, il ne saura pas. Pour lui, il connaît sa vie de couple. C'est quoi sa vie de couple pour lui? Il voit ses parents. Il voit ses parents. Mais ses parents, ils ne se prenaient jamais la main. Donc il ne va pas prendre la main. C'est ça la vie de couple, c'est prendre la main. Mais je ne sais pas moi. Embrasser, tu m'embrasses jamais. Ah bon, il faut embrasser. Et plein de choses que... Bon, heureusement qu'on a évolué, hein, et qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on sait aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que on est influencé par tout ce qui se passe chez nous. Si par exemple, vous avez eu un papa, alors on appelle ça, je ne sais pas si vous connaissez le mot, on appelle ça taiseux. Ça vous dit taiseux? Taiseux, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui n'est pas capable de mettre des mots, M-O-T, sur des mots, M-A-U-X. D'accord? Et donc, lui, il a été élevé comme ça, il s'arrange avec lui-même, tout le temps. Ça ne va pas, il va dans sa caverne. Puis là, il est bien, tout seul, tranquille, il digère. Il ne faut pas venir l'embêter. Mais il ne partage rien. Et la femme, imaginons qu'elle était dans une famille où ça discutait beaucoup. Et quand il y avait des problèmes, tu vois, on en parlait facilement. Mais là, elle va être perdue. Parce qu'elle ne va pas comprendre l'attitude de son mari. Elle va dire, mais il est malade, c'est grave, c'est quoi docteur? Et elle ne va pas savoir. Et quand il va s'approcher de la caverne, voyez, il va être là. Elle va pas comprendre ce qui se passe. C'est le dragon dans sa caverne. Laisse-moi tranquille. Je digère. Si nos parents se sont séparés, il se peut que nous ayons en nous la peur d'être abandonnés par notre conjoint. Certains se marient en ayant en eux des blessures non guéries et de la colère refoulée provenant de leur enfance. Ce qui a des conséquences néfastes pour le couple. On va prendre l'exemple de Gilbert. Et vous allez voir que c'est fou comment, à partir de son éducation, comment sa maman a agi avec lui, comment il a agi avec sa femme. On y va? On n'y va pas? Ah, on y va. La mère de Gilbert, femme dynamique, dotée d'un fort tempérament et d'une énergie intarissable, poussait ses trois enfants à réussir en tout. Ce qu'elle n'avait pu accomplir dans sa propre vie devenait une ambition qui tournait à l'obsession. Le frère aîné de Gilbert était excellent en sport. Et sa sœur jouait de deux instruments à un haut niveau. Elle attendait de Gilbert qu'ils suivent leurs traces. Okay? Et toi aussi, tu seras en première division, comme Marcel, lui disait-elle. Je t'ai inscrit à un camp de sport pour 2 semaines pendant les vacances. Non, tu ne peux pas aller chez ton copain. Parce que je t'ai inscrit à un stage de voile d'une semaine pour que tu puisses faire la course avec Josiane l'été prochain. La vie de Gilbert était prévue et organisée depuis qu'il était né. Il n'avait jamais le droit de ne pas être d'accord ou d'exprimer ses sentiments. Donc ça, c'était son éducation. Voilà comment il a été élevé. Maintenant, il se marie. Alors là, c'est pas le problème. Dès que l'épouse de Gilbert lui proposa un week-end en vélo dans les régions des lacs, il rétorqua sur un ton blessant. « Pourquoi est-ce que tu veux toujours diriger ma vie ?» Vous voyez le dysfonctionnement? Là, elle lui propose gentiment un projet de vacances, mais lui, il entend autrement. Il entend sa mère. Il entend sa mère qui est en train de lui dire « On va faire comme ça, on va faire ça. » Une dispute violente s'ensuivit, où les accusations volaient comme des traits enflammés. Gilbert avait acquis l'art de terminer toute altercation par une remarque sarcastique qui faisait fondre son épouse en pleurs. Le ressentiment et la colère que Gilbert gardait en lui depuis des années, suite aux tentatives maternelles de diriger sa vie, se déchaîner, non contre sa mère, mais contre son épouse. Ne comprenant pas la cause de leurs nombreux conflits conjugaux, ils décidèrent finalement d'aller chercher de l'aide. Voyez un petit peu l'impact négatif de l'éducation qu'on a subie. Du positif, du neutre et du négatif. Comme quoi c'est important de mettre ça à jour. Et on revient à notre enseignement de mardi, le cœur à cœur. Le cœur à cœur qui est fondamental. Comment je vais découvrir tout ça si on ne prend pas un peu de temps, tous les deux, en cœur à cœur, pour que je connaisse son histoire. C'est la diversité de nos attentes à la suite de nos éducations qui peuvent causer de nombreux conflits dans notre couple. D'autre part, les blessures non guéries et la colère refoulée provenant de notre passé viennent troubler nos relations avec notre conjoint. Et il est très important de parler ensemble des problèmes d'éducation et de relations avec notre propre famille pour mieux nous comprendre. D'accord ? On ne vient pas de nulle part, on vient d'une famille. Et il faut comprendre comment fonctionnait la famille. Si votre conjoint a des besoins qui n'ont pas été comblés depuis son enfance, il est bon que vous le sachiez, il faut se comprendre pour pouvoir s'aider. Et c'est là que, dans un cœur à cœur, on va développer la connaissance de l'autre et, dans la mesure du possible, parce qu'on n'est pas Dieu, mais dans la mesure du possible, essayer de répondre aux besoins affectifs de l'autre. On a vu les 4 A, mardi, dans quel domaine la personne avait des attentes et ça n'a jamais été satisfait. Et dans la mesure du possible, dans ma mesure, ce que Dieu me donne, eh bien, je vais essayer d'apporter ma pierre à la restauration de mon conjoint. Amen. Et ça donne du sens à notre mariage. Ça donne du sens à être ensemble. Je travaille pour le bien-être de mon conjoint. Et mon conjoint travaille à mon bien-être affectif. Amen. C'est alors qu'ensemble, nous pourrons faire face à ce que nos parents n'ont pas su ou pas pu nous donner. Ça sera aussi l'occasion de faire la paix aussi avec tout ça. Parce qu'on ne peut pas demander, dans nos attentes, si on a été déçu, si on a été frustré, s'il y a beaucoup de déceptions, on ne peut pas demander à nos parents des choses qu'ils ne pouvaient pas nous donner. On ne peut pas rester avec cette frustration toute une vie, parce que ça va ouvrir la porte à l'ennemi. Ça va nous empêcher d'avoir des relations saines dans la famille. Il faut accepter à un moment que ton père, ta mère, ils t'ont donné ce qu'ils ont pu. Souvent, des fois, ça peut être maladroit, mais il y a un deuil à faire. À un moment, il faut tourner la page. Il y a un moment, il faut accepter, et puis il faut se regarder à soi-même. Et comme disait quelqu'un une fois, comment tu veux exiger des autres d'être parfait alors que toi-même, tu n'es pas parfait ? Il faut être un peu réaliste. Ouais. Quand je me suis converti, quelques semaines après, peut-être 2 mois après, j'étais là-bas. Et un dimanche matin, j'ai reçu une parole comme quoi il fallait que j'appelle ma mère et mon ex-femme. Pourquoi ? Pour m'excuser. Je suis tombé de haut. Hein. J'ai dit, Seigneur, tu dois te tromper. Hein. Il doit y avoir un problème. Et en fait, non. Il n'y avait pas de problème. Ça faisait partie de ma restauration. Il fallait que j'appelle ma mère pour lui dire qu'elle avait été la meilleure mère possible avec les moyens qu'elle avait, avec l'équipement qu'elle avait, avec son, comme on dit en psychologie, le background, avec son histoire. D'accord ? Donc, j'ai appelé ma mère, j'ai oublié, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, je voulais te remercier parce que tu as été une maman extraordinaire. Et pourtant, je n'ai pas reçu d'affection de ma mère. Je ne peux même pas vous dire le dernier bisou que j'ai eu en tant qu'enfant, je ne sais pas. Je l'ai dit sincèrement parce que Dieu m'avait convaincu. Et en fait, elle m'a donné ce qu'elle a pu me donner. Ben, vous savez, au téléphone, et ma mère, c'est une femme, comme on a dit tout à l'heure, dotée d'un fort tempérament. Elle dirigeait un café, bar, restaurant qu'on appelait les routiers. Donc son univers, c'était que des gros durs. D'accord ? Ma mère, elle ne se laissait pas faire. Vous voyez, C'était costaud. Première fois de ma vie, qu'est-ce que j'entends au téléphone? Ma mère qui pleure. Alors là, ma mère pleure. Et je pense qu'il fallait que j'apporte cette phrase-là, parce qu'il devait y avoir quand même une certaine culpabilité au fond d'elle, qu'elle n'a pas pu élever ses enfants, ou peut-être que, vous savez, les temps changent, on se rend compte de besoins d'enfants qu'on ne se posait pas à l'époque, puis on se disait, ben moi, je n'ai pas été bien, j'ai pas fait les choses comme il fallait, tout ça. Il peut y avoir une certaine culpabilité. Et bien là, c'est comme si que je l'avais rendu libre. Et je lui ai dit, maman, tu as fait ce que tu as pu avec les meilleures choses que tu as. Et ça a été la paix. Et après, ça a été ma femme, un peu plus dure. Elle est partie du foyer et je suis resté avec les trois enfants. Et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et là, le Seigneur me dit, faut que tu demandes pardon. Je dis, ah, c'est un peu fort. C'est un peu fort de café. Mais j'ai réfléchi. Et je dis, est-ce que j'ai été parfait? Est-ce que, d'une certaine manière, je n'ai pas aussi poussé? Alors, chacun a ses torts. Mais il fallait que je prenne, parce que moi j'étais encore en colère. Et donc c'était facile pour moi de me réfugier en jouant le calimero et en disant, ouais, il est parti avec un mec, je suis resté avec trois. Et puis tout le monde disait, oh mon pauvre, oh, je te plains. Tu vois. Donc j'étais dans une position de victime et qui n'allait pas m'aider à rebondir dans la vie. D'accord. Et donc là, c'était la fin du calimero. Il fallait que je prenne mes responsabilités. Et donc, là, à elle, je lui ai écrit une lettre. Et ma fille, qui était présente avec elle quand elle l'a reçue, quand elle a lu la lettre, elle a dit, je crois que ton père, il a fumé. Parce que vu le tempérament que j'avais, c'était pas possible que je fasse une lettre comme ça. Elle a dit, je crois que ton père a fumé. À mon avis, il n'est pas bien. Mais en fait, c'était pour me libérer. D'accord. Donc tout ça pour dire que ben, on est appelé à pardonner avec nos histoires, avec nos parents, parce que sinon on va traîner ça toute la vie. On va avoir quatre étapes dans la reconnaissance et la guérison des blessures provenant de l'enfance. Un, reconnaître les besoins auxquels nos parents n'ont pas pu répondre. Le couple se soutient dans l'affliction. Une fois qu'on a partagé tout ça, on se soutient ensemble, on pardonne, comme je viens de le dire, et on regarde à Dieu, on va de l'avant. Amen. C'est douloureux de reconnaître les échecs de nos parents. Cependant, il faut nous demander si nous avons des blessures qui nous restent de notre enfance. En effet, elles se manifestent fréquemment sous forme de colère contre les autres. Et la première victime, comme on l'a vu tout à l'heure avec Gilbert, la première victime, c'est le conjoint. Si vous mettez le doigt sur une souffrance cachée, ne soyez pas surpris de la violence des réactions émotionnelles. Le but est de reconnaître ces émotions afin de s'en occuper et d'aller au-delà. Vous connaissez la barrière du déni. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe en nous. Et cette barrière du déni, tant qu'elle n'a pas sauté, eh ben on se complaît dans notre histoire. Il faut amener ça à la lumière pour dire oui, c'est vrai, j'ai souffert de ça. Et quand on est jeune, ça peut être compliqué. Parce que les parents, c'est des dieux. On est petit et nos parents, c'est des dieux. Et là, il faut reconnaître que nos parents, ils n'ont pas été parfaits. Donc pour certains, ça peut être compliqué. Tu as eu des attentes. Ton père, vous connaissez ce bouquin qui s'appelle Père absent. Père absent, c'est le syndrome des enfants qui avaient des attentes avec leur papa, dans une relation fille-papa, père. Et en fait, le papa n'était jamais là. Et en fait, la gamine, elle a développé un syndrome, mais elle aime tellement son père qu'elle ne le dit pas. Et en fait, elle reste avec ça. Et ça peut entraîner des problèmes psychologiques. Donc, il faut que ça soit amené à la lumière. Et ça, dans le couple, c'est important, le cœur à cœur, comme disait Mardi, parce que c'est vraiment dans des moments comme ça où on peut se lâcher. Et on peut être amené à dire, bah, tu vois, ça, je ne l'ai jamais raconté à personne. Ça, je ne l'ai jamais dit. Mais le fait de le dire, c'est le phénomène de la confession. Le fait de le dire va libérer la personne. Donc c'est important dans le couple qu'on voit aussi tous les avantages à être à deux. Et que ça soit bien fait, qu'il y ait du sens à être ensemble, qu'on est là pour se soutenir, qu'on est là pour se comprendre. Pas pour juger, mais pour se comprendre. Et le fait que quelqu'un nous comprenne, ça change une vie. Le fait que quelqu'un nous comprenne, ne nous juge pas, et continue de nous aimer de la même manière, ça change une vie. Amen. Soutenez-vous dans l'affliction. Si votre conjoint a des besoins d'enfance, restez sans réponse, apportez-lui votre soutien affectif, permettez-lui de s'exprimer et entrez en empathie avec lui dans sa douleur. Soyez particulièrement attentif à donner à votre conjoint de l'affection et de le valoriser. S'il en a été privé dans son enfance, le manque de ses qualités dans le couple aggraverait encore la souffrance. Vous rappelez mardi qu'on a parlé de valorisation. C'est fondamental. On ne connaît pas l'histoire de chaque être humain. Mais croyez-moi que chaque être humain a souffert à cause de ce monde déchu. Personne n'a échappé à la souffrance. Et le manque de considération, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, je peux vous dire qu'il est partagé par la plupart des êtres humains. Et on a plus besoin de quelqu'un qui nous aime tel que l'on est, plutôt que de nous critiquer sans arrêt. Nous critiquer sans arrêt, nous dévaloriser, nous montrer tout ce qui ne va pas parce que ce n'est pas encore arrivé à la lumière et que le Seigneur n'a pas encore mis sa main dessus, tout ça là va faire en sorte que le couple, au lieu de progresser, il va régresser. On a besoin de valoriser l'autre. On n'a pas besoin de donner un coup de main à l'ennemi, vous savez. L'ennemi, il est assez grand pour nous culpabiliser, pour nous dévaloriser, pour nous rappeler qu'on ne vaut rien, pour nous rappeler tous nos défauts. On n'a pas besoin de lui filer un coup de main. On a besoin de se soutenir dans le couple. On a besoin de soutenir l'autre dans ce qu'il a traversé et lui dire « Maintenant, tu n'es plus tout seul. Maintenant, je suis avec toi. » Un être humain qui est avec toi. C'est ça le sens du mariage aussi. Et souvent, on ne fait pas attention. Et on prend des mauvaises habitudes. On voit les défauts de l'autre, c'est normal. On vit ensemble, on voit les défauts de l'autre. Voyez ? Mais comme je disais mardi, il faut adopter un tempérament proactif. Voir ce qui va bien chez l'autre et lui dire ses qualités. Mesdames, valorisez vos maris. Et vous allez avoir des super maris. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous dévalorisez votre mari parce que c'est vrai ce que vous dites. Mais vous aussi, vous avez des défauts. On a tous des défauts. Mais prenez le parti de valoriser vos maris. C'est très important. Il est fragile. Il est plus fragile que vous le pensez. Vous le croyez fort parce que c'est son rôle d'être fort. Mais à l'intérieur, dans son âme, il compte sur vous. Je vous le dis, je suis un homme, je sais de quoi je parle. Vous voyez ? Un homme, il a besoin d'être un héros. Il n'a pas besoin d'être un zéro. L'homme, lui, il est sur son cheval blanc. Il vient chercher sa princesse. Mais si vous lui dites tous les jours que c'est un zéro, le pauvre, il va être obligé de descendre du cheval. Et vous n'obtiendrez plus rien de lui. Encouragez-le. Vous voulez un petit témoignage, hein? C'est Georges et Georgette. Vous les connaissez, Georges et Georgette? Georgette s'en va au marché. Elle va faire le marché, le bazar. Georges, il dit... Ah, je vais lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aspirateur et puis Georges, il commence à passer l'aspirateur dans la maison. Il a des petites attentes, le coco. Il sait que quand Georgette va arriver, Georgette va lui dire « Oh, Georges, t'as fait ça pour moi. » Donc Georges, il y va. Il y va. Georgette arrive. Georgette le regarde et là, catastrophe. Qu'est-ce que Georgette dit? Georgette dit, mais Georges, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Georges, mais non, c'est ça là, regarde comment tu fais. Ah non, c'est pas bon, pousse-toi, pousse-toi, je vais te protéger. Georges descend de son cheval, dépité, prend la télécommande et regarde la télé dans le canapé. Le pauvre. Et Georgette. Ah, ça va être propre avec Georgette, c'est sûr. Mais la pauvre, elle a raté le coche. Il suffisait de dire à Georges, « Georges, il ne fallait pas grand-chose, je vous dis, les hommes, il ne faut pas grand-chose. » Georgette s'est arrivée, elle aurait dit, « Oh Georges, oh, c'est génial ce que tu fais. Ah, Ah, par contre, tu vois, là, c'est mieux quand c'est comme ça. Mais elle aurait commencé par dire, Georges, mais ce que tu fais, c'est génial. Elle aurait gagné le pompon. Je vous assure, le Georges, il serait reparti deux fois. Il aurait fait toute la case. Valorisez vos maris. Ensuite, il faut pardonner. Pardonner implique d'abandonner tout désir de vengeance. C'est aussi laisser tomber vos attentes irréalistes quant à vos parents. Pardonner, c'est un acte de la volonté. On n'en a probablement pas envie, mais c'est le seul moyen pour être libre. Si nous avons été profondément blessés, il faudra pardonner chaque fois que la souffrance reviendra à la surface. Ce sera un processus qui peut être long si les blessures sont profondes, mais les souvenirs seront de moins en moins douloureux. Nous devons pardonner que nos parents aient changé ou pas, qu'ils aient ou non reconnu le mal qu'ils ont fait, c'est pas grave, la seule façon pour nous de nous libérer, c'est de pardonner. C'est pas toujours approprié ou même possible d'exprimer nos pardons à nos parents s'ils sont vivants, surtout s'ils n'ont pas conscience de la souffrance qu'ils nous ont causée. Mais avec Dieu et devant Dieu, nous pouvons dire « Je choisis de pardonner » et lui demander de nous libérer de la souffrance et de la colère refoulée. C'est le pardon qui ôte la colère et c'est Dieu qui guérit la douleur. Enfin, regardez à Dieu et allez de l'avant. Pour la puissance de Dieu, rien n'est trop difficile à guérir et à restaurer. Dieu possède un cœur de père et des entrailles de mère. Dans Isaïe, il est écrit ceci, « Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. » Nous pouvons demander à Dieu de guérir le sentiment de perte en nous, ou de faire le deuil de ce que nous aurions aimé recevoir et que nous n'avons pas reçu. Nous pouvons lui demander d'être le parent parfait pour nous. Nous pouvons lui demander de remplacer ce qui nous a manqué. Le réservoir d'amour de Dieu pour chacun de nous est intarissable. Dans Jérémie, il est écrit ceci, « Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. » L'amour de nos parents ne peut pas être parfait. Il n'est dans le meilleur des cas qu'un pâle reflet de l'amour de Dieu pour nous. Si nous avons peur de l'engagement, Dieu nous promet, « Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et l'amour parfait chasse la peur. Quand nous nous appuyons sur les promesses de Dieu et que nous osons les croire, Dieu répand sa guérison dans nos vies. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. On finit là-dessus, juste pour dire dans la famille, dans nos familles, nos responsabilités. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. Faisons une différence dans nos familles, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont. Et c'est un grand défi qui nous amènera à grandir spirituellement et à glorifier notre Dieu. C'est un défi d'accepter les autres dans une famille, toutes les différences qu'il y a, tous les gens blessés encore. C'est un grand défi, mais c'est une source de croissance spirituelle que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'amour de Dieu qui est en nous, le fruit de l'Esprit qui est en nous, se manifeste dans ces moments difficiles. Et nous grandirons ensemble. Montrons aux autres qu'une autre voie est possible. On n'est pas toujours obligé de se battre. Il y a une autre voie qui est possible. Montrons aux inconvertis de notre famille que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est de notre responsabilité dans nos familles. On ne peut pas agir n'importe comment. On ne peut pas faire comme tout le monde parce que nous sommes des enfants de Dieu. On a une responsabilité. Certains ne viendront jamais à l'église. Certains ne liront jamais la Bible, mais à travers nous, ils peuvent voir qui est Jésus-Christ. Et c'est peut-être la seule façon où ils le verront. Donc soyons des artisans de paix dans nos familles. Réalisons que tout est possible par le Seigneur dans nos familles et qu'on a des responsabilités. Amen. On va dire merci au Seigneur pour tous ces enseignements. Ça se termine ce soir pour moi. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre attention. Mon souhait, c'est que tous ces enseignements produisent du fruit, encore une fois. Qu'il y ait du changement, que là où le couple était en difficulté, ben qu'il y ait là une décision pour ressusciter le couple. Vous savez, Dieu bâtit sur les ruines. Donc, il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Hein? Et on peut, vraiment, je peux vous communiquer que Dieu ne se trompe pas dans le mariage. Le mariage, il est extraordinaire. quand il est vécu comme Dieu veut qu'il soit vécu. J'ai eu deux mariages dans ma vie. Je suis à 18 ans d'un mariage inconverti et 18 ans d'un mariage converti avec dans le ministère que Dieu m'a donné. Évidemment, j'ai eu une formation accélérée. J'ai été mis à contribution très très rapidement. Mais je peux vous dire que le mariage que je vis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit avec le mariage du monde, avec le mariage des inconvertis. Je vous le dis honnêtement, et je finis là-dessus, on est heureux dans un mariage vécu comme le Seigneur le veut. Amen. Je vous encourage à fonctionner comme la Bible le dit, comme la parole de Dieu le dit. Vos efforts, eh bien, ils seront récompensés. Amen. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ces moments que nous vivons avec toi. Merci parce que tu veux que nos mariages te glorifient. Tu veux que nos mariages soient vraiment à la hauteur de ta parole, Seigneur, de ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser tout ça. Aide-nous à comprendre qu'avec toi, tout est possible. Ce n'est pas une question d'âge, pas une question de temps. On peut décider de changer. Seigneur, maintenant par ton esprit, Seigneur, c'est toi qui visites les cœurs. C'est toi qui fais que les cœurs endurcis peuvent être transformés. Que les cœurs endurcis peuvent devenir des cœurs de chair. Que des résolutions peuvent être prises ce soir. Ça peut être pris dans une décision où on veut un mariage comme toi tu l'as voulu. Pas une colocation, pas une cohabitation, mais un vrai mariage. Seigneur, je place mes frères, mes sœurs devant toi, Seigneur. Je place les couples devant toi, Seigneur. Et je prie à l'instant même pour qu'il y ait un miracle dans les cœurs, qu'il y ait un miracle dans les vies, Seigneur. Quand tu changes un cœur, c'est une vie qui est changée. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à rentrer dans le tout accompli. Ce que tu as accompli à la croix, le tout accompli, tu nous appelles à rentrer dedans. Que ton sacrifice à la croix ne soit pas vain. Que ton sacrifice à la croix porte du fruit dès maintenant sur cette terre. Que nous entrions dans ta résurrection, dans cet esprit de victoire, cet esprit de gagnant, cet esprit où nous refusons la routine, où nous refusons ces fatalités, où nous refusons ce que l'ennemi nous a volé. Mais au contraire, soyons conquérants et regagnants du terrain. Regagnons ce que l'ennemi nous a volé avec le Seigneur. Qu'il ressuscite notre couple, qu'il ressuscite notre désir de l'autre. Et qu'ensemble, nous repartions sur une bonne voie, sur des bonnes décisions, avec tous ces enseignements pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous équiper. Et ton esprit est là, Seigneur. Et avec ton esprit, tout est possible. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous allons voir que ce mois de la famille n'était pas une décision qui venait d'un être humain, mais ça venait de toi. Parce que tu veux que ton Église soit rempli de familles, de couples qui soient en bonne santé, qui respirent l'amour. Alors Seigneur, manifeste-toi encore, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Alléluia.